On va prendre dans chichi, après les nouns à l'envers, on va chercher des mitonymes. Chapitre 11. Donc les Bnei Israël, ils cherchent des sujets de récrimination. Hachem n'a pas apprécié. Et la colère d'Hachem s'est enflammée. Il y a eu un feu d'Hachem. Le peuple s'est tourné vers Moshe. Moshe a prié et il a apaisé le feu. Et puis ensuite, on nous parle de Haaspasouf. Haaspasouf, c'est. Certains disent c'est le Révrav, on va prendre ça comme ça. Itavu Tava. Ils ont désiré du désir. C'est-à-dire que ils ont un problème. Ils ne désirent rien. Pourquoi est-ce qu'ils ne désirent rien? Parce que dès qu'ils formulent un désir, le désir se réalise. Le prototype, c'est la manne. La manne, c'est cette nourriture qui a la propriété d'avoir le goût qu'on veut qu'elle ait. Il n'y a pas de désir. Vous ne pouvez pas désirer un steak pommes frites, parce que immédiatement, quand vous le désirez, la manne que vous mangez, elle a le goût du steak pommes frites. Et donc ça, c'est, si vous voulez, les Bnei Israël ne supportent pas cette situation. Ils désirent, ils veulent, ils désirent désirer. Ils veulent avoir ce désir avec un certain temps jusqu'à ce qu'éventuellement le désir soit satisfait. Donc c'est ce sentiment-là, cette sensation-là qui leur manque. Et donc ils en veulent, ils veulent de cela. Et ils pleurent. Et ils entraînent les Bnei Israël dans leur récrimination, dans leurs pleurs, et ils disent, Mi yachilenu basar. Qui est-ce qui va nous donner à manger de la viande? De la vraie viande, pas de la manne avec un goût de viande, de la vraie viande. Alors du coup, ils partent dans les fantasmes. Daga, etc. Vous savez bien. Ensuite, on nous explique encore une fois ce que c'est que la manne. Et ensuite, Vaishma Moshe et Ta'am Bochel Mishpachotav. Ishfetachwalo. Paolo, plutôt. Et Vaïchar Hachem, Meod. Là, du coup, Hachem s'est mis terriblement en colère. Moshe Rabbeinu, il pensait effectivement que c'était aussi très mauvais. Et il se passe quelque chose de très étrange. Des situations dans lesquelles les Bnei Israël se plaignent, se révoltent contre Hachem, il y en a depuis le début. Il y en avait déjà à Mara, il y en a tout le long. Et ici, c'en est encore une nouvelle. C'est une nouvelle version des fameuses récriminations d'Ebné Israël. Mais toujours, mon cher Abénou, a fait face. Et voilà ici que les choses changent complètement. Mon cher Rabbeinu, il dit à Hachem, Lama areota leavdecha. Pourquoi tu as fait du mal à ton serviteur? Lama lo matsati chen be'enecha. Donc, c'est à la fois me faire du mal, j'ai pas trouvé grâce à tes yeux et tu m'as mis un poids. Tu m'as donné quelque chose à porter que je ne peux pas porter. Qu'est-ce qu'il dit ici? Du coup, il a un drôle d'argument. Est-ce que ce peuple-là, c'est moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le dans ton sein comme une nourrice porte le nourrisson, vers la terre que j'ai juré de donner aux ancêtres de ce peuple. D'où pourrais-je prendre de la viande pour leur donner à tous, pour donner de la viande à tout ce peuple qui pleure là, qui me supplie de leur donner de la viande? Et Moshe dit, je ne peux pas, moi tout seul, je ne peux plus, moi tout seul, je ne peux plus porter la charge de ce peuple. Ça pèse trop lourd pour moi. Et si, en fait, tu m'imposes ça, comme je pourrais pas être, je peux pas être à la hauteur, alors tue-moi tout de suite. Que je ne vois pas mon échec, mon malheur. Alors Hachem lui dit, rassemble-moi 70 hommes. Il faut bien regarder le texte. Mizikne Israël, Asher yadata ki hem zikne ha'am veshotrav. Tu vas choisir pour moi 70 personnes parmi les anciens d'Israël, des gens dont tu saches qu'ils sont vraiment les anciens du peuple. Sont aussi ces Shotrim. Et ici, il faut juste se rappeler quelque chose dont on avait parlé au moment de l'esclavage. Vous vous souvenez, les Bnei Israël, quand Moshe Rabbeinu est intervenu et que ça a aggravé la situation, et que les Bnei Israël, on leur a dit, jusqu'à présent, on vous fournissait la paille pour fabriquer les briques, mais maintenant, vous irez chercher la paille tout seul. Et donc, ils ne sont pas arrivés à produire la quantité de briques qu'il fallait. Et donc, ils allaient être battus par les capots égyptiens. Mais entre les capots égyptiens et le peuple qui travaillait, il y avait des chotrim juifs, en fait, des hébreux, qui étaient, eux, les interlocuteurs des Égyptiens. Et c'est à eux que les Égyptiens ont dit, mais pourquoi vous ne produisez pas la quantité de briques qu'on vous a prescrit? Et on avait vu que ces Shotrim-là, ils ont pris sur eux. Et ils ont dit que c'est eux qu'on doit punir si on n'a pas produit la quantité de briques. C'est-à-dire, en quelque sorte, ils ont pris sur eux les coups que les Égyptiens voulaient donner aux travailleurs, à ceux qui travaillaient la brique. C'est les gens qui avaient une sensibilité qui leur a permis de comprendre que les bénis Israël qui travaillent n'en peuvent plus. Et eux, ils ont un peu plus de force. Alors ils ont dit, battez-nous, nous, à la place de battre les ouvriers qui ne produisent pas. Ces gens-là, ils ont montré qu'ils avaient de la sensibilité, de l'empathie avec avec les qui travaillaient. Et donc, ces gens-là qui sont choisis, c'est eux. C'est eux qui vont être choisis. Et Hachem dit, tu vas les rassembler, Oel Moed. Et Hachem dit, Ve'asalti mina ruach asher alecha. Je prélèverai, oui, je prélèverai de l'esprit qui est sur toi, c'est-à-dire, je vais prendre un peu de ta prophétie, de ton leadership. Et je vais le mettre sur leur tête à eux. Et ainsi, ils vont porter avec toi la charge du peuple. Et tu seras plus seul à porter. C'est ce qui s'est fait. La question qui se pose ici, c'est qu'est-ce qui s'est passé ici de si grave que Moshe dise, je ne peux pas continuer. Mon cher Abbé nous dit, je ne peux pas, je ne peux plus, je démissionne. Qu'est-ce qui s'est passé? On a l'habitude de voir ces Hébreux qui grognent tout le temps, qui n'arrêtent pas de récriminer, etc., qui se plaignent tout le temps. Ils se plaignent encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé ici qui fait que là, dans cette situation-là, Moshe Rabbeinu nous dit, j'arrête. J'arrête. Je démissionne. Je ne peux pas continuer. Donc, la question que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a de si différent de ce qui s'est déjà passé plusieurs fois dans l'histoire du peuple depuis la sortie d'Égypte? La Torah nous donne ici un exemple, une situation où le grand Moshe Rabbeinu dit « Je démissionne, je ne peux pas continuer. » Alors, si ça concernait Moshe Rabbeinu, et les gens de l'époque, bon, ben, ça n'a pas besoin d'être écrit dans la Torah. Si c'est écrit dans la Torah, c'est que c'est devenu Torah. C'est devenu un enseignement. Et donc, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on comprenne en quoi ça peut nous concerner. La Torah, elle nous concerne. Ce qui était un événement qui a eu lieu une fois dans l'histoire avec Moshe Rabbeinu. Si c'était que ça, alors ça ne viendrait pas. Si c'est, ça n'a pas tellement de place dans la Torah. Donc, si c'est dans la Torah, c'est que c'est un enseignement qui concerne toutes les générations. Alors, ça sera plus ou moins proche de cette situation-là. Mais je voudrais que vous me proposiez des solutions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire là? C'est plus grave. Demander de la viande, c'est tellement grave. Quel est le problème? Finalement, on va leur donner de la viande. Non, c'est pas vrai, ils n'ont pas de la viande, ils ont de la volaille. Ils ont des cailles. Les cailles, c'est seulement de... C'est de la viande du Darbanan. Bien sûr. Oui, non, mais ça, Moshe l'a dit, je vais faire la shrita de tous les troupeaux, ça ne va pas servir. Quel problème? Il faut... Tout ce qu'on a, c'est le texte. Voilà, le texte, je l'ai lu, vous l'avez lu, à peu près complètement. J'ai lu des morceaux dont on n'a pas directement besoin. Et donc, évidemment, si c'est un enseignement qu'on doit tirer d'ici, c'est dans le texte d'ici que on va devoir trouver une explication au fait que Moshe Rabbeinu ne peut pas continuer. Alors, je vous écoute.
Pareil à l'arrivée en Eretz Israël, et tout repose que sur Moshe.
Oui, mais pourquoi ici? Pourquoi tout à coup aujourd'hui? Pourquoi c'est ici dans l'histoire de la viande qui se réveille? Ou qui se... Il pense, non, je ne peux plus continuer. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai compris, si c'était mais, s'il a pu supporter de continuer avec eux avec le, après le veau d'or, pourquoi il ne peut pas supporter qu'il demande de la viande? Pardon? On aurait pu penser, mais il n'y a aucune indication ou dans ce que dit Moshe Rabbeinu que c'est que, effectivement, c'est que c'est trop. Il dit, ce que tu me demandes, c'est trop, là. Et les images qu'il a utilisées, bon, si vous regardez les images qu'il utilise, est-ce que j'ai, c'est moi qui l'ai conçu, c'est moi qui l'ai fondé, ce peuple? Si c'était lui qui l'avait enfanté, dans ce cas-là, on a l'impression, bon, c'est formellement, c'était lui qui l'avait conçu, enfanté, bon, il n'aurait pas de problème. Bon, c'est pas lui qui l'a enfanté. Alors, on peut faire la liste des éléments qu'on a pour essayer de voir si on est un peu inspiré. Qu'est-ce qu'on a comme élément?
Il se sépare même du peuple, il parle de la terre, de leurs ancêtres, pas de nos ancêtres, l'avantage.
Comme il parle du peuple. Il dit, je supporte pas ce peuple. Tu as raison, quelque part, il y a une... Oui, quelque part, il dit, ce peuple-là, je ne le supporte pas. Il n'a pas arrêté, il a commencé par une situation où il les a sauvés. Les mitonnim, là, il y a un feu, il se tourne vers lui et lui, il prie, il les sauve. Le droit de parler, les images peuvent parler.
C'est pas, c'est, on a l'impression que c'est révélateur d'une tahava un peu grossière, non?
Oui, ouais, c'est vrai, oui.
C'est peut-être ça qui irrite mon cher Abénou.
Oui, continue.
Le veau d'or, c'était une déroute spirituelle. Ils avaient un manque c'était un. Il leur manquait un guide. Enfin, ils avaient l'impression que mon cher Abénou n'allait pas revenir. Là, c'est une tahava tellement grossière. Moshe, il se dit,
C'est pas spirituel, c'est vraiment matériel, quoi. On demande de la viande. On est en rapport avec HM en direct, on demande de la viande.
Je pense que c'est une bonne piste, t'es sur une bonne piste. Vous pouvez aller dans ce sens-là. Oui, bon, ça va dans le même sens que vient d'être dit, qu'il y a un grand écart. Mon cher Rabbeinu, c'est bien sûr c'est un homme. C'est un homme. On connaît son papa, sa maman, son frère, sa sœur. On connaît sa femme. C'est un homme. Mais cet homme-là, par exemple, c'est un homme qui ne peut pas parler à Paro. Quand il s'agit de parler à Paro, c'est Aaron qui parle. C'est comme on dit, la bouche qui va transmettre les paroles d'Hachem, cette bouche-là, elle ne peut pas s'adresser à Paro. Donc, ça veut d'une certaine manière. Justement, il y a quelque chose chez Moshe qui est mis en évidence ici. C'est ce qui a été dit à la fois musical. Vous avez dit l'essentiel, en fait, mais il faut juste le formuler complètement. Ça veut dire, en fait, mon cher Abénou, ce qu'il dit ici, je ne les comprends pas du tout. Regardez, qui sont les gens qui ont été choisis pour aider Moshe? Quand Moshe dit, ça suffit pas, j'y arrive pas, Hachem lui a pas donné simplement, ben, il y aura encore d'autres gens qui vont t'aider. Je vous ai dit, quel genre de gens vont l'aider? C'est des gens qui vont apporter à Moshe Rabbeinu quelque chose que Moshe Rabbeinu n'a pas. Moshe Rabbeinu, il comprend parfaitement les gens. Hazal disent que les Bnei Israël, ils ont été Rochesh ou Roched, Moshe Rabbeinu, d'être trop proches de leur propre femme. Parce que eux, quand ils ont parlé avec Moshe Rabbeinu, ils se sont sentis tellement bien compris qu'ils se sont dit, si ma femme, elle parle avec Moshe Rabbeinu et qu'elle se sent tellement bien comprise, ça crée une espèce d'intimité entre ma femme et Moshe Rabbeinu, c'est insupportable. C'est ça que Chazal veut dire. Être tellement proche de... Il les comprenait tellement bien. Mais là, il y a quelque chose que Moshe n'a pas. Il dit, je ne l'ai pas. Il dit, ça, ce n'est pas possible. Il faudrait, pour que je puisse jouer ce rôle-là que tu veux me faire jouer, là, maintenant, il faudrait que j'ai conçu et mis au monde ce peuple. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il ne comprend pas comment, hein, comme vous avez dit, il comprend pas comment on peut demander de la viande. Tu es complètement pris en charge. Ils ont tout. Ils ont tout. La manne, l'eau, les nuages de Anané Kavod, etc. Ils ont tout. Mon cher Abel ne comprend pas comment on peut demander des choses pareilles. Comment on peut avoir Il dit ça, je peux pas. J'ai rien à voir avec eux. Tu me demandes quelque chose que je ne sais plus faire, je ne sais pas le faire, j'ai peut-être jamais su le faire. Il y a quelque chose chez mon cher Rabbeinu. Le Rambam, il dit que Hachem a ça, Moshe. Il a fait Moshe. Il a fait Moshe, il a fait tout le monde. Il a fait Adam Harishon aussi. Non, non, là-bas, il a fait Moshe. Jusqu'au bout, jusqu'à la Asiya, il a fait un personnage particulier qui s'appelle Moshe. C'est un homme, c'est aucun problème, c'est un homme. C'est un être humain, c'est pas un malard, c'est un homme. Mais il lui a donné des qualités particulières, en particulier, super particulier, la nevoua de Moshe, elle n'a rien à voir avec la nevoua de tous les autres prophètes. Rien à voir, on va en parler après. Parce que dans cette même paracha, on aura le problème de cette... que même Aaron et Myriam ne vont pas comprendre que la nevoua de Moshe est différente de la leur. C'est-à-dire, Moshe, il est différent. Il y a une différence radicale. Mais d'un autre côté, il dit, mais j'y arrive pas. Je peux pas. Et c'est pour ça qu'Hachem lui adjoint, pas simplement des gens pour... La Gemara, elle dit que, par exemple, quand il y avait une question, il y avait une question de cache-route difficile. Alors, c'est Rav, il convoquait tous les bouchers de la ville, et avec tous les bouchers de la ville, il prenait la décision de savoir est-ce que la bête en question, est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère. Il voulait répartir sur plusieurs têtes, en quelque sorte, cette responsabilité de décider que c'est cachère ou c'est pas cachère. Il y a des fois, les poskim disent, un poskim qui dit, moi je pense comme ça, et s'il y a deux autres rabbanim qui pensent comme moi, alors j'assume. Mais tout seul, non, tout seul, j'y vais pas. Là, ici, c'est pas comme ça. C'est pas que on veut répartir les choses au lieu de sur une tête, sur plusieurs têtes. Ce n'est pas simplement remplacer un par plusieurs. C'est ces gens-là, ces chotrim, là, justement. Ces gens dont tu sais, tu vas parmi les Ikné Israël, tu choisis quelqu'un dont tu saches qu'il est Mizikné Ha'am. C'est quoi la différence entre Zikné Israël et Zikné Ha'am? Ça veut dire. Ça veut dire des gens dont tu sais qu'ils sont Zikné Ha'am. Il est allé chercher chez les Zikné Israël. C'est quoi être Zikné Ha'am par rapport à Zikné Israël?
Rashi, ce que dit Rashi quand il dit qu'ils sont capables de les Ikneam, ils sont margishim le tsahar du âme, que les
Voilà,
Ikneam ne
exactement,
savent pas
c'est
faire.
ça. Et les Zikné Israël, c'est probablement des grands chachamim. Zikné Ha'am, c'est des gens qui sont. Ils font partie du peuple, c'est des. Vraiment des gens qui ont grandi dans le peuple avec toujours en gardant toute leur relation avec le peuple. Les chotrim qu'on a choisis, c'est des gens qui ont montré qu'ils avaient une empathie totale avec le peuple. Et c'est ça que Moshe dit, je peux pas parce que je n'ai pas ça moi. Je ne peux pas.
Ça veut dire que Moshe peut pas être Margish, le tsahar
Il n'est
du
pas
âme.
marre à ce point-là. Non, ce n'est pas le tsar. Il ne comprend pas comment on peut être à ce point, comment on peut tomber à ce point, on peut tomber aussi bas que de demander de la viande.
Oui, mais parce que Rashi dit chez Nitztaharu betzaratam. Rashi veut nous montrer que les Iknam, c'est ceux qui sont capables de
Oui, eux, ils ont montré qu'ils
le
étaient
tsar.
capables, etc. Donc, ils entendent le peuple. Ils sont capables de comprendre comment on peut demander de la viande. Mon cher Rabbi, il dit, moi, je ne comprends pas comment on peut demander de la viande. Et je ne peux pas les aider, les Bnei Israël. Je ne peux pas les porter, il faut les porter, mais je ne comprends pas ce qu'ils veulent. Et donc, il dit, je suis disqualifié. Alors, Hachem dit, Hachem ne discute pas avec lui. Vous remarquez, Hachem ne dit pas qu'il va donner de la nevoua aux 70 personnes. Le Sanhédrin que qu'on va mettre autour de mon cher Rabbeinu. Pas du tout. Hachem, il n'ajoute pas du tout de la chorma. On prend de la chorma chez Moshe et on en étale sur les 70. Ça se fait à au lieu de dire chorma ou énergie, ça se fait à énergie constante. C'est pas du tout qu'on va rajouter. Il manque rien, il n'y a pas. Ce n'est pas que Moshe n'a pas assez de nevoua, il a assez de nevoua. Il a assez de tout. D'une certaine manière, j'aurais tendance à dire que quand Hachem accepte, il ne discute même pas avec Moshe. Il ne lui dit pas, ça va aller mieux, tu vas y arriver, je vais t'aider, etc. Rien du tout. Moshe dit, je ne peux pas. Ah, tu peux pas. Ok, alors je vais ajouter 70 des gens qui vont porter avec toi, parce que eux, ils vont porter ce que toi, tu peux pas vraiment porter. C'est pas une répartition sur 71 têtes au lieu d'une seule tête. C'est qu'on ajoute des gens qui vont porter avec Moshe parce qu'ils vont porter là où lui ne peut pas porter. Et ça, c'est quand même quelque chose de la singularité de Moshe Rabbeinu. Et ça veut dire que un leader, un chef, un roi, un responsable, il doit être en phase avec le groupe qu'il dirige. Si vous voulez, si vous avez un roi qui est dans ses vapes, il est dans les vapes, il est dans... mais il n'est pas du tout, il n'est pas du tout connecté avec le peuple, il ne peut pas fonctionner. Le roi, il doit porter le peuple. On a vu dans Bamidbar, quand on a fait le décompte, on avait vu que là-bas, le décompte dans Bamidbar, ce n'était pas du tout pour savoir combien ils étaient, on le savait. C'était pour dire que combien il y en a dans chaque famille, dans chaque Bet-Av, dans chaque tribu, etc. Savoir que chacun a un rôle à jouer dans chacune dans chacun des ensembles auxquels il appartient. Il appartient à une certaine famille. Tu as un rôle à jouer dans une famille. Tu dois jouer le rôle du père, tu dois jouer le rôle du fils aîné, de la grande fille, de la mère, etc. Même chose, tu as un rôle à jouer dans un bétav ou un rôle à jouer dans la tribu. Tu dois jouer ce rôle-là. Donc, je dois savoir exactement où je suis. Et c'était ça, probablement, que quand ils se tenaient devant mon cher Rabbeinu leur éclairait la situation. Et donc, il savait où exactement je dois être. Et ici, maintenant, on apprend que celui qui est un leader, alors c'est dit sur Moshe Rabbeinu, mais c'est valable à tous les niveaux. Hein, si les parents ne comprennent pas les enfants, ils ne vont pas pouvoir les éduquer. C'est pour ça qu'il y a des problèmes, parce que les parents, ils sont d'une certaine génération, d'une certaine civilisation même. Et ils ont des enfants qui sont dans une autre civilisation. Ils ne peuvent pas les aider. Ils ne les comprennent pas réellement. Ils ne comprennent pas leurs problèmes. C'est-à-dire, nous, vous avez tout, l'abondance, etc. Nous, on vivait, je ne sais pas quoi, dans les cabanes, etc. Et vous vous plaignez. Mais ils ne comprennent rien. C'est très, très important. Que chacun joue, pour jouer son rôle, il faut comprendre les autres pour savoir comment je peux bien jouer mon rôle dans l'ensemble auquel j'appartiens. Donc ça c'est ce premier sujet, je pense. Juste pour mémoire, dans cette mitzvah de Hadlakat Nerot, qui est donnée au Kohen Gadol, Chazal disent que à l'inauguration du Mishkan, tous les Nessiim ont apporté les cadeaux. Là aussi, c'était très compliqué. Parce que Nachshon Ben Aminadav, il a apporté tout ce qu'on va pouvoir apporter dans le cadre du Mishkan. Il a apporté toutes les sortes de korbanot, toutes les sortes d'encens, de tout, toutes les menachot, de tout. Tout ce qu'on peut donner à Ekdesh, il en a apporté un échantillon. Quand arrive Netanel, le Nassi d'Issachar, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Comment il peut apporter quelque chose d'original? Nachshon, il a apporté tout ce qu'on peut apporter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter le double. Bon, s'il apporte le double, l'autre, il va apporter 4 fois, etc. Vous imaginez? Ça monte très vite les puissances de deux. Il a eu une idée de génie. C'est pas pour rien qu'il est Issachar, celui qu'il est. C'est une idée de génie qu'il a eue. Il a décidé d'apporter exactement la même chose, mais de lui donner un sens complètement différent. Le Midrash explique que on interprète tout ce que Nachshon a apporté en termes de la royauté, la malchoute. Et tout ce que Issachar, enfin, Daniel va apporter en termes de l'Imoud HaTorah, etc. Le Midrash, il n'explique pas tous, mais il n'explique que 5 ou 6, je crois. Je me rappelle bien. Comment, les mêmes choses, en fait. Elles ont un autre sens parce que quand vous apportez un cadeau, on a déjà parlé de cela souvent, quand on apporte un cadeau, celui qui apporte le cadeau, il n'est pas neutre par rapport, il n'est pas inexistant. Bon, c'est sûr que si vous faites livrer votre cadeau par Amazon, mais si vous apportez votre... Moi, j'ai rien, chez Uber, c'est pas mieux, hein. Mais... C'est clair que quand vous le donnez, le moment où vous le donnez, etc., tout ça fait partie du cadeau. Et donc Nachshon, on ne sait pas si Nachshon, lui, il a apporté. C'est un peu un piège. Parce que d'une certaine manière, ce que ces Nessim ont apporté, ça fait que c'est comme si tout ce qu'on va apporter dans la suite, ça ne sera jamais que la suite de ce que les Nessim ont apporté. C'est pas sympa en réalité. Je sais pas si j'aurais apprécié. On m'a rien demandé, ça va très bien, mais je sais pas. Ça me paraît un peu ambigu. Alors ils ont tous apporté. Et Aaron, il s'est aperçu que bah, lui, il n'avait pas apporté. Il était désolé. Alors, Hachem lui a dit, mais cette mitzvah d'Adakatanerot, elle est plus grande que leur mitzvah, que la mitzvah des korbanot qu'eux, ils ont amené. Et on a expliqué pourquoi? Parce que des korbanot, on va en apporter tant que le Beth Amikdash existera. Donc il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de Korbanot. Mais en quoi c'est une consolation pour Aaron? Quand il n'y aura plus de Bétamigdash, il n'y a plus là de la Katanerot non plus. Alors ici, on voit ce lien entre la Torah Shebichtav et la Torah Shebaalpé. Parce que Chazal disent, qu'est-ce qui a été dit là à Aaron? C'est qu'à de la Katanerot, ça continue. Même quand il n'y a plus de Bétamigdash. Sous la forme de Ner Chanouka. Ner Chanouka, c'est la même chose, d'une certaine manière, que les Nerot, la Hadlakat HaNerot dans le Mishkan, dans le Betamikdash. C'est juste que, un peu comme tout ce qui se faisait au Betamikdash, au lieu qu'il y ait une personne qui fasse tout le job, dans toute maison, chef de la maison ou quelqu'un dans la maison doit faire le job pour chaque maison. Ner Ishubeto. De même que avant, c'était le Kohen Gadol qui faisait tout le job à Yom Kippour. Les Bnei Israël, ils attendaient de voir que, si la languette, elle change de couleur. Je ne sais pas quelles prières ils faisaient, s'ils en faisaient, Bichlal. Il y a peut-être les prières quotidiennes, est-ce qu'on faisait des prières spéciales? La Avoda, elle était faite par le Kohen Gadol. Mais aujourd'hui, chacun doit faire la chose tout seul. Personne ne le fait pour vous. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Et donc, d'une certaine manière, on a passé une situation où quelqu'un faisait pour nous et où maintenant il faut faire par soi-même. Mais ça peut se voir négativement, c'est-à-dire on a perdu le Betamigdash, etc. Mais d'un autre côté, on a passé du stade de l'enfant pour lequel on fait les choses au stade de l'adulte qui fait les choses par lui-même. Donc le clan Israël, dans cette situation de galoute, d'absence de Betamigdash, d'un autre côté, il est devenu adulte, il doit faire les choses tout seul. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire le travail pour lui. Donc ici, on a cette mitzvah de Baalotra qui se prolonge dans la mitzvah d'Hadlakat HaNerot de Chanukah. Alors, j'ai dit, à la fin de la paracha, on retrouve Aaron et Myriam. Et Aaron et Myriam, tout Aaron et Myriam qu'ils soient, c'est incompréhensible. Ils disent du Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas si c'est du Lashon Hara, c'est du Motsi Shem Rav. Va te d'abord, Myriam va Aaron, de Moshe, al odot Aisha Kushit, Asher Lakar. Qui Isha Kushit la carte. Vayomru, Arak Achbe Moshe diber Hashem. Alogam banu diber. Est-ce qu'Hashem n'a parlé qu'à Moshe? Nous aussi, on est prophète. Un prophète, c'est quelqu'un auquel Hashem parle. Vaishma Hashem. Akadosh Baruch Hu a entendu ce que disaient Aaron et Myriam. Et là, on a un Aish Moshe, Anav Meod, Mikol Ha'adam Asher Al Pnei Ha'adama. L'homme Moshe. D'accord, l'accent, il est, c'est pas un malach. C'est un homme. Il est un homme, Moshe. Mais il a quand même quelque chose. Il est un ave plus que toute autre créature. Tout autre homme sur la terre. Bon, Hachem leur tombe dessus, pitom, sur Moshe, sur Aaron, sur Myriam, et leur donne rendez-vous au El Moed. Ils y vont, tous les trois. Hachem descend avec une nuée. Et il appelle à la porte, il appelle à Aaron et Myriam. Il leur dit, Shimouna, alors le mot na d'ordinaire, c'est une demande. Écoutez, s'il vous plaît. Ils ont traduit par écoutez donc. C'est vrai que Shimounad, ici la musique, elle va plutôt dans le sens de écoutez donc, quoi, plutôt que écoutez s'il vous plaît. Mes paroles. Et il leur dit Im yiyeh neviyachem. Si jamais, si vous êtes prophète, Hashem bemare lav et vada, b'chalom adaber bo. Ce prophète qui, s'il existe un prophète, moi je lui parle, dit Hashem. Je parle à n'importe quel prophète. Bemare lav. Et vada. Bachalom, andaberbo. Dans une vision, dans un rêve, aucun prophète n'a jamais reçu la prophétie, la parole d'Hachem, à l'état de veille. Ils ont toujours reçu, que ce soit les grands prophètes, les petits prophètes, les rishonim, peu importe. Tous, absolument tous. La prophétie, même Abraham, quand il reçoit une prophétie, toujours, il tombe en syncope ou il dort. Jacob, tout le monde. Mais Moshe, Lochen Avdi Moshe, mon serviteur Moshe, il n'en est pas ainsi pour lui. Dans toute ma maison, Kol Beti, Nemanhu, il est fiable. Donc vous n'avez rien compris. Oui, je lui parle PLP. La bouche à la bouche. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas craint de parler contre lui, contre mon serviteur, contre Moshe? Et Hachem s'est mis en colère contre eux. Et il est parti. Et la nuée dans laquelle Hachem s'était manifestée, elle s'en va aussi, et d'un coup, on s'aperçoit que Myriam est Metzorat. Et Aaron regarde Myriam. Certains disent que lui aussi, mais c'est tout de suite parti chez lui. Chez elle, ça va rester. Et du coup, Aaron se tourne vers Moshe. Et il lui donne du Adoni, mon Seigneur. C'est-à-dire, ne nous impute pas la faute. Un Metsora, d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui est socialement, en tout cas, il est mort. Parce que le Metsora, il est exclu de tous les camps. Il est tout seul. Donc, socialement, il est mort. Personne ne peut lui parler. Il ne peut parler à personne. Socialement, il est mort. Même qu'on peut être économiquement mort, on peut être socialement mort. Sorat, c'est socialement mort. C'est pour ça que Aaron dit Alna Tri Kamet. Qu'elle ne soit pas comme une morte. Et Moshe va prier pour sa sœur. Elle va s'en tirer avec la moitié de la peine, quoi. Une semaine et. Donc on voit ici quelque chose d'étonnant. Et ils n'ont pas du tout voulu dire, voulu faire du mal à Moshe. Hazal explique que quand Hachem a, oui, Hachem a dit que, il a dit à Moshe, j'ai besoin de 70 kénim. Le problème, c'est comment on prend 70 kénim dans le clan Israël. Le clan Israël, c'est 12 tribus. 70, ce n'est pas un multiple de 12. Donc, on a pris 6 personnes dans chacune des 12 tribus. Et il y avait 72 personnes qui ont été choisies. Et après, il fallait en éliminer deux. Et tirer au sort. Mais il y en a deux qui ont dit, mais nous, on est Mochel. Eldad et Medad, ils s'appellent. Mais il leur est resté de la prophétie. Parce qu'on l'avait transposé sur tous les, sur tous, on a mis de la prophétie de Moshe. Et donc, ils ont prophétisé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Moshe met. Et Yoshua va faire entrer les Bnei Israël en Eretz Israël. Yoshua, il a paniqué, il est allé chez Moshe, il a dit, il fait les taire. Et Moshe a dit, mais non, moi je suis très content si tout le monde devient prophète. Leur prophétie, elle a été vraie. Quand Tsipora, la femme de Moshe, elle a entendu que ces gens-là allaient être choisis, ils vont devenir prophètes, elle a dit, je plains leur femme. Parce qu'elle disait, ben, moi, Moshe est devenu prophète. Et du coup, je ne le vois plus, Moshe. C'est une des trois choses que Moshe Rabbeinu a prises, une initiative qu'il a prise sans demander la permission à Hachem. Il a brisé les louchot, il a ajouté un jour et il s'est séparé de son épouse. À chaque fois, il a trouvé des appuis dans le texte, etc. Mais donc, elle a dit, bon, ces gens-là, leur épouse, on croit que bon, ils vont devenir prophètes, mais pour les femmes, c'est un peu difficile. Et Myriam, elle a entendu ça. Elle a compris que elle pensait que Tzipora se plaignait de mauvais traitements de Moshe qu'il a laissé tomber. Et c'est ça qu'ils ont voulu reprocher à Moshe en disant, nous, on n'a pas laissé tomber nos conjoints, pourquoi toi tu laisses tomber ta conjointe? Quoi, Moshe, il laisse tomber sa femme? Dans les trois choses que Moshe a faites, Hachem lui a dit, tu as bien fait. Yashev Kohacha. Donc on a une situation, c'est une erreur. Elle ne se plaignait pas, elle disait, bon, moi, j'ai accepté, etc. Mais pour elle, elle risque d'être surprise, quoi. Alors, en quoi est-ce que. Donc, ils ont. Ça, c'est du Motzi Shemra. Ils disent qu'il avait tort de faire. Il fait du mal à sa femme. Qu'il n'était pas du tout. Hachem lui a jamais donné l'ordre de se séparer de son épouse. Mais il a compris qu'il devait le faire, puisque quand Hachem a décidé de parler au Bnei Israël, il leur a dit, si vous voulez m'entendre directement, il faut vous purifier. Parce que vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a l'impression qu'Hachem, au Sinaï, il est venu pour dire les Aseret HaDibrot. Mais ce n'était pas ça du tout le projet initial. Le projet initial d'Hachem, Hachem a dit à Moshe, je vais te parler et je vais faire en sorte que les Bnei Israël entendent que je te parle. Ça veut dire que Hachem va élever les Bnei Israël pour quelques minutes ou secondes, je ne sais pas quoi, pour qu'ils soient à la hauteur d'entendre qu'Hachem parle à Moshe. Pourquoi? Le Gambecha yaminu leolam. Pour qu'ils aient confiance en toi. Parce qu'il y a une question qu'on n'avait peut-être pas posée, que j'ai posée ailleurs, c'est pourquoi est-ce qu'on croit, pourquoi on fait confiance à Moshe? Des gens qui viennent et qui disent Dieu m'a parlé, il y en a plein des asiles. Pourquoi tout à coup, Moshe, on le croit, on fait confiance? C'est ça qu'Hachem voulait. Ils vont expérimenter que je te parle, donc quand tu diras que je t'ai parlé, que je t'ai dit ça, ils pourront te croire. Parce qu'ils l'ont vécu, ils ont vu que je te parle. Ah, qu'est-ce qui s'est passé jusque-là? Pourquoi ils faisaient confiance à Moshe? Bon, parce que c'est lui qui les a portés de la sortie d'Égypte, les 50 jours jusqu'à Matan Torah. Bon, il y a pas eu le temps de réfléchir si on lui fait confiance ou pas. Mais après, si on veut faire confiance, pour faire confiance, il faut avoir des raisons de faire confiance. Il ne faut pas faire confiance comme ça, avec rien du tout. Si on n'a pas de raison rationnelle de faire confiance, il n'y a pas de raison de faire confiance. Alors, le texte dit, Moshe, quand Hachem a dit ça à Moshe, alors, c'est marqué, juste après, c'est marqué, Vayaged Moshe es divrei ha'am. Moshe a raconté à Hachem les paroles du peuple. Ces paroles, elles ne sont pas écrites dans la Torah, mais qu'est-ce que le peuple a dit? Ils ont dit, Rotsonenu lirot et malkeinu. Nous voulons voir notre roi. Et on ne veut pas, Moshe, on veut voir Hachem. Alors, Hachem dit, ah, Imken, si c'est comme ça, Alors, purifiez-vous à Yom Mochar. Et bien, Yom HaShlishi, je parlerai. Mais ça, c'est seulement parce que les Bnei Israël ont dit, on veut voir. Alors, ils ont vu les Kolot, mais bon. Ils voulaient voir. Ils voulaient avoir une ligne directe avec Hachem. Pas entièrement par Moshe Rabbeinu. Mais après, ils n'ont pas tenu la distance. Après la deuxième parole, ils ont dit non, pour la troisième, c'est toi qui parles. Donc, même Aaron et Myriam, Moshe était tellement anav qu'ils n'y ont rien vu, quoi. Ils ne voyaient pas cette relation extraordinaire que Moshe avait avec Hachem. Ils avaient l'impression que c'est comme nous. C'est très remarquable. Ça veut dire que si eux, ils n'ont rien vu, ça veut dire que personne n'a rien vu. Hein. C'est ça qu'on veut dire. Il était Anav Mikol Adam. Une certaine anava, une certaine tsnihout de faire les choses de telle sorte que personne ne s'en aperçoive. Qu'Hachem lui parlait régulièrement. Vous avez
Alors,
dit
Stan, je peux vous poser une question.
oui.
Vous avez dit qu'il faut une raison logique pour avoir la Emouna en un prophète. Alors, peut-être pas en termes de prophète, mais en termes de Rachamim. Qu'est-ce que c'est alors, Emouna Trachamim?
Là, ça veut dire que c'est on a Emouna dans les Chachamim dans la mesure où eux sont des gens dont on sait qu'ils ont été choisis par la génération d'avant, et ça remonte quasiment jusqu'à Moshe Rabbeinu.
Mais donc, ça ne voudrait pas dire que eux ont fait leur preuve. J'aurais normalement
Non,
besoin qu'ils aient fait
non.
leur preuve de leur chorma, par exemple.
Oui, ils ont fait la preuve, sinon les anciens ne les auraient pas nommés.
Ah, ils ont fait leur preuve.
Ils ont fait leur preuve. Les preuves, ils ont été nommés par la génération d'avant.
Ce serait peut-être plus la Emouna de la génération d'avant, d'être
Qui est
Mamie,
la faute de la
disons.
génération d'avant et d'avant et
Maman.
d'avant, et ça remonte jusqu'à Moshe Rabbeinu.
Merci.
On avait dit que Hachem leur a dit, Vayomer Shimuna. Alors, je veux dire, là, d'habitude, ça veut dire, s'il te plaît. C'est ce que Rashi dit. Rashi dit, il a pris la peine de dire que ici, c'est comme tous les na. Ein na, ela la shon bakasha. Et on peut se demander pourquoi il y a un A ici. Pourquoi il dit Shimuna? Shimu. Pourquoi un A? Sina veut dire Bakasha, ça veut dire je vous demande d'écouter. C'est une demande d'Hachem, comme si je leur demande un service, quoi. Je vous demande d'écouter, si vous allez me rendre service en écoutant. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Daber na, dit à chacun en Égypte que chacun emprunte chez le voisin, etc. Là, c'est. Alors, on explique que Hachem a demandé Na parce que, pour pas que les Bnei Israël disent que la promesse qui avait été faite à Abraham Avinu, qu'il serait en esclavage, ça, Hachem l'a fait, mais il a donné une autre promesse, qu'ils vont sortir avec un grand butin. Alors, je vous demande, Hachem dit à Moshe, demande-leur d'emprunter pour qu'ils puissent sortir avec ce grand butin. C'est pour que, voilà, pour que je puisse réaliser ma promesse, quelque part. Mais ici, quand on a besoin d'un na, shimu na. Oui. Pardon, le... Parce qu'il est en colère? C'est un peu compliqué parce que de dire ça parce que c'est marqué Vayomer, c'est pas marqué Vidaber. Vayomer, c'est une parole douce. Donc c'est difficile de dire que Vayomer, ce soit une indication qu'il est en train de parler dans la colère.
Peut-être qu'il fallait adoucir leur volonté d'écouter.
Pardon?
Myriam et Aaron, ils étaient en phase de critique. Donc, ils n'étaient pas en phase d'écoute. Il fallait essayer d'attirer leur attention pour qu'ils écoutent, les amadouer pour écouter la parole d'Hachem. Quand ils sont embarqués dans une critique, dans une revendication comme ça, face à Moshe, ils n'ont pas le Yeshuvadat pour écouter.
Oui, mais c'est un peu compliqué parce que Hachem les a déjà convoqués, ils sont dans le El Moed, enfin, c'est toute une affaire. Après, il leur dit sortez, donc ils ont le temps de se poser des questions. Ils voient bien que Hachem va leur parler. Alors, vraisemblablement, il faut dire un peu dans, toujours un peu dans, peut-être ça va dans votre sens, mais d'une certaine façon, ce qu'Hachem dit, c'est difficile à entendre. Qu'est-ce qui est difficile à entendre? C'est que la prophétie, c'est jamais. Enfin, pardon. La prophétie, c'est toujours. La prophétie est toujours comme vous, comme la vôtre. Toutes les prophéties sont toujours comme les vôtres. Mais, Moshe, ce n'est pas le cas. Ça veut dire, écoutez bien, ça veut dire, je vous demande d'écouter quelque chose qui est très difficile à entendre, parce que je vous parle de quelque chose qui est presque incompréhensible, puisque tous les prophètes fonctionnent comme vous. Donc on peut penser que Moshe aussi fonctionne de la même manière. Dans le Rambam, dans les Yud Gimel, l'Ikrim, il compte la prophétie de mon cher Abénou à part. C'est pas la prophétie et donc la prophétie de Moshe est incluse dans la prophétie de tout le monde. La prophétie de Moshe, c'est une autre affaire. C'est quelque chose de radicalement différent. C'est peut-être ça que Shimouna, c'est-à-dire, je vous demande d'écouter parce que c'est difficile d'écouter ce que je vais dire. Parce que ce que je vais dire, c'est quelque chose de presque impensable. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un va pouvoir parler avec Hachem. Hachem dit, je lui parle de bouche à bouche, je lui parle comme vous parlez entre vous. Et ça, c'est peut-être trop difficile à entendre. C'est pour ça qu'il leur dit, Shimouna, écoutez, s'il vous plaît, écoutez, c'est quelque chose qui est très difficile à entendre. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que bien qu'il il va après c'est marqué qu'il se met en colère. Au pasouk tête, c'est marqué Vaïchar Afashem Bam. Ça veut dire que évidemment que la colère d'Hachem, c'est pas du tout une colère qu'il envahit à son corps défendant. D'accord? Bien entendu, il n'y a pas de colère d'Hachem comme pour nous. Nous, on peut être mis en colère à notre corps défendant, peut-être. Mais là, ce n'est pas du tout comme ça. Hachem leur parle doucement, Vayomer. Il leur explique les choses. Et puis, après qu'il leur a vraiment expliqué, il dit, Madoua, l'oeil arrêté, pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu peur de parler contre mon serviteur, contre Moshe? Vaïcha, af, Hachem, bam. Et du coup, Hachem a montré un visage de colère, mais il ne leur a pas parlé du tout dans la colère. Parce que la colère d'Hachem, c'est une colère, Hachem appuie sur un bouton qui donne l'impression de la colère, c'est ça que ça veut dire. Mais ce n'est pas du tout une colère qu'Hachem a été envahi par la colère et que c'est exprimé dans la colère. Voilà, on va s'arrêter là.